c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Dans le cadre des semaines de l'Amérique latine, l'association Dordogne-Périgord Amérique latine, d'OPEAL, a décidé de participer à cette manifestation. Et nous avons le plaisir de recevoir dans ce cadre littéraire, parce que nous avons choisi de parler des auteurs, des écrivains de ce continent, nous avons le plaisir de recevoir Dominique Gauthier, agrégé de lettres, qui a accepté notre invitation pour nous parler d'un écrivain argentin,
Jorge Luis Borges.
Jorge Luis Borges. Donc, je laisse la parole à Dominique. Et j'ai oublié de dire que notre technicien Antoine nous accompagne, comme d'habitude, d'une façon très performante.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Il se trouve qu'hier soir encore, dans une émission littéraire diffusée à la télévision, l'écrivain Salman Rushdie a parlé de son dernier livre, Le Couteau. Et dans le cadre de cette émission, il a mentionné l'influence considérable qu'avait eue sur lui Borges. Je prononce, je l'espère, à peu près bien en espagnol. Borges est un écrivain argentin, mais il s'est souvent rendu en Europe et il a fait une partie de ses études de jeune homme dans la ville de Genève. Et pour l'anecdote, lorsque le professeur faisait l'appel, il disait souvent « Borges » comme il aurait dit « Forge » selon Borges. Et les camarades de Borges étaient obligés de le pousser du coude pour qu'il puisse répondre à son appel. Alors, si on veut parler de Borges, il faut considérer justement le lien qu'il y a entre l'Amérique latine et l'Europe. Lien que privilégie depuis toujours notre ami Eduardo. Et ce lien entre l'Amérique latine et l'Europe transite, si je puis dire, par des figures très fortes. Et pour, à cause du goût des lettres qui m'anime, il y a déjà trois écrivains dont j'ai eu l'occasion de parler, Jules Laforgue, le comte de Lautréamont et Jules Supervielle, qui sont tous trois nés à Montevideo. Et avec Borges, nous avons un écrivain argentin et, comme on aura peut-être l'occasion de le dire, nous avons un écrivain qui évoque, pour moi qui ne connais pas cette région géographiquement parlant, qui évoque le Rio de la Plata, c'est-à-dire cette embouchure extraordinaire qui unit deux fleuves qui se jettent dans la mer et qui fait se mirer vis-à-vis l'Uruguay d'un côté et l'Argentine de l'autre. Alors, nous n'avons que peu de temps pour évoquer la figure de Borges, mais je voudrais précisément essayer de montrer qu'il s'agit d'un écrivain contrasté. On a, pour ainsi dire, deux univers. D'un côté, un univers qui rassemble des contes philosophiques et fantastiques, et de l'autre, un univers dont il sera question aujourd'hui aussi, un univers poétique Et on peut dire que l'univers poétique est celui du jeune homme qu'a été Borges, donc il y a à peu près un peu plus de 100 ans, dans les années 1920, et d'un autre côté, l'écrivain qui fera perdurer l'élaboration de contes fantastiques. Alors, je voudrais d'abord évoquer, dans un premier temps, les contes fantastiques, en commençant par un jugement qui a été porté sur Borges par un assez grand écrivain polonais, dont je n'aurai pas le temps de parler, mais qui énonce ce jugement-là. Il s'agit de Witold Gombrowicz. Et voilà ce que dit Gombrowicz de Borges. C'est un styliste sur le plan littéraire, mais il n'appelle pas de solution spirituelle. Il pratique surtout la littérature sur la littérature, l'écriture sur les livres, et s'il s'abandonne parfois à l'imagination pure, elle l'entraîne loin de la vie, dans la sphère d'une métaphysique tortueuse faite de beaux rébus dans une scolastique riche en métaphores. Fin de citation. Alors, il s'agit d'un jugement assez critique, d'un jugement assez sévère, et je me suis posé la question, justement, à propos de ce premier volet concernant les contes fantastiques, je me suis dit, est-ce qu'on peut trouver un mot qui résumerait l'ensemble de la création littéraire de Borges? Et j'ai trouvé que le mot incontournable que l'on pouvait employer, ou même que l'on devait employer, c'était le mot « labyrinthe ». Pour preuve, peut-être, le fait que dans nombre de contes fantastiques et philosophiques, par exemple dans l'Aleph, par exemple dans l'Immortel, par exemple encore dans la demeure d'Astérion, puisqu'Astérion, c'est le monstre qui vit au cœur du labyrinthe crétois, ou encore le conte les deux rois et les deux labyrinthes, ou encore enfin Abérakar el-Bokhari mort dans son labyrinthe, on voit que le labyrinthe est une figure omniprésente. C'est la raison pour laquelle, pour mieux illustrer ce premier volet des contes fantastiques, je voudrais simplement évoquer le premier conte qui ouvre l'Aleph et qui porte le titre « L'Immortel ». Je me suis livré à un exercice qui n'est pas toujours facile par rapport aux différents contes qui composent les principaux recueils de contes de Borges, notamment le recueil « Fiction » et le recueil « L'Aleph ». Et précisément, j'ai tenté de résumer le mieux possible le conte qui porte le titre « L'Immortel ». Dans l'Immortel, une princesse, la princesse de Lucinge, trouve un manuscrit dans le dernier tome de l'Iliade, traduite par Alexander Pope au XVIIIe siècle. Ce manuscrit est la confession d'un tribun d'une légion romaine qui, au IIIe siècle de notre ère, entreprend une expédition à la recherche de la cité des immortels. Ce tribun racontera son aventure à la première personne. Dans sa quête, il sera servilement suivi par un troglodyte qu'il en vient à baptiser du nom d'Argos, le chien d'Ulysse. Muet jusque-là, le troglodyte recouvre alors la parole et, lorsque le tribun lui demande ce qu'il sait de l'Odyssée, le troglodyte, alias Argos, répond « Très peu, moins que le dernier rhapsode. Il y a déjà 1100 ans que je l'ai inventé. » Ce sera par le jeu du hasard que le tribun en viendra à boire l'eau qui confère l'immortalité, lors même qu'une sorte de doctrine est énoncée. Je cite un passage du texte. « Il existe un fleuve dont les eaux donnent l'immortalité. Il doit donc y avoir quelque part un autre fleuve dont les eaux l'effacent. Aussi, le lecteur suivra-t-il le tribun en 1066 à la bataille historique de Stamford Bridge, puis à Bikanir au Rajasthan, puis à Aberdeen en 1714, jusqu'en l'an 1921, qui marquera le retour à la condition mortelle. Je lis un passage du texte de Borges. Le 4 octobre 1921, le Patna qui me conduisait à Bombay dut relâcher dans un port d'Érythrée. Je descendis, je me souvins d'autres matins très anciens, également face à la mer Rouge, quand j'étais tribun romain et que la fièvre et la magie et l'inaction consumaient les soldats. Dans les environs, il y avait un ruisseau d'eau claire. J'y bus, poussé par l'habitude. Quand je remontais sur la berge, un arbuste épineux me déchira le dos de la main. La douleur inaccoutumée me parut très vive. Incrédule, taciturne, heureux, je regardais se former une précieuse et lente goutte de sang. « Je suis redevenu mortel, me répétais-je. De nouveau, je suis pareil aux autres hommes. » Cette nuit-là, je dormis jusqu'à l'aube. D'où une conclusion provisoire, ainsi rapportée. L'histoire que j'ai racontée paraît irréelle, parce qu'en elle s'entrelacent les événements arrivés à deux individus distincts. En somme, le tribun romain et Homère. Et pour couronner le conte, ces quelques lignes que je lis pour finir. Quand s'approche la fin, il ne reste plus d'image du souvenir, il ne reste plus que des mots. Il n'est pas étrange que le temps ait confondu ceux qui, une fois, me désignèrent avec ceux qui furent symboles du sort de l'homme qui m'accompagna tant de siècles. J'ai été Homère, bientôt je serai personne comme Ulysse, bientôt je serai tout le monde, je serai mort. Voilà. Voilà pour évoquer ce premier volet et pour montrer, pour vous donner le goût de la lecture et pour vous donner le goût de percer les énigmes que représente chacun des contes philosophiques et fantastiques de Borges.
De Borges, merci. Merci Dominique de nous faire découvrir ces écrivains comme vous l'avez bien indiqué, un peu labyrinthique.
Labyrinthique, oui. Labyrinthique, oui.
Voilà. Donc, vous avez évoqué aussi Rio de la Plata. J'ai eu la chance de connaître un peu Buenos Aires. Il ne faut pas oublier que Borges a beaucoup parlé de son pays, de la ville, surtout Buenos Aires, et aussi des tangos. Alors, nous allons passer à quelque chose de plus simple, entre guillemets, et nous allons écouter justement un tango qui s'appelle Malena.
Malena canta el tango como ninguna. Y en cada verso pone su corazón, ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo.
Malena, Malena canta un tango, voilà. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord et nous parlons de littérature de ce continent avec Dominique Gauthier qui nous a gentiment accepté de nous parler de Jorge Luis Borges.
Oui, alors j'ai parlé du labyrinthe. Je voudrais lire un petit extrait justement du conte que j'évoquais tout à l'heure, intitulé « L'immortel », pour montrer à quel point justement le labyrinthe était présent. Voici un extrait, raconté donc par le tribun romain dont je parlais tout à l'heure. « La force du jour me contraignit à chercher refuge dans une grotte. Au fond, il y avait un puits. Dans le puits, une échelle qui s'évanouissait dans la ténèbre inférieure. Je descendis. À travers un chaos de galeries sordides, j'arrivais à une vaste chambre circulaire, presque invisible. Cette cave avait 9 portes. 8 introduisaient à un labyrinthe qui, insidieusement, ramenait à la même chambre. La 9e, grâce à un autre labyrinthe, donnait sur une seconde chambre circulaire, identique à la première. J'ignore le nombre total des chambres. Ma malchance et mon angoisse les multiplièrent. » Alors, à ce propos, je voudrais indiquer aussi aux auditeurs qu'il y a un artiste qui est un contemporain de Borges, mais qui est un artiste néerlandais, qui se nomme Maurits Escher, ça s'écrit E-S-C-H-E-R, qui aurait pu être un excellent illustrateur de Borges, puisque Escher a dessiné des labyrinthes dans pratiquement tous ses dessins comportent des vues labyrinthiques, des enchevêtrements singuliers. On pourrait, pour clore cette évocation des contes fantastiques, montrer aussi que le conte qui porte le titre « L'Aleph » significativement est le conte qui clôt le recueil, alors que, c'est là encore un jeu presque pervers de Borges, alors que « L'Aleph » est la première lettre de l'alphabet hébraïque.
On va faire une pause musicale.
Pourquoi pas, bien sûr.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver.
Loco, 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 oyes. je sais que je sais que je suis un peu fou, c'est ça.
Non, vous êtes peut-être un peu fou, mais vous êtes justement une arche entre l'Amérique latine et l'Europe.
Oui, il ne faut pas oublier que justement on a évoqué le Mar del Plata, Buenos Aires, tango. Et là, nous n'oublions pas que difficile d'évoquer la littérature argentine sans faire une place spéciale à Buenos Aires. Tant la ville est centrale dans la géographie imaginaire du pays. Il y a deux Argentines, Buenos Aires et le reste, observe Irène Meyer. Voilà, donc c'est ça que je vous laisse, Dominique.
Oui, mais c'est un peu une introduction au second volet, en réalité. C'est-à-dire précisément un volet qui, moi, m'a surpris, parce que je ne connaissais, avant que vous ne me donniez des pistes de lecture, je ne connaissais que les contes fantastiques, et j'ai découvert que les poèmes de jeunesse, en effet, révélaient un tout autre Borès. D'une part parce qu'ils ne sont pas labyrinthiques, et d'autre part parce qu'en effet, il livre, en somme, un portrait de la ville de Buenos Aires extrêmement fin, au point que Borges, qui parlait couramment l'anglais, qui possédait très bien le latin et qui avait fait ses études à Genève, ayant fait ses études à Genève, parlait parfaitement le français, quand il est revenu à Buenos Aires, tout jeune homme, Il a continué d'écrire des poèmes et il s'est beaucoup rapproché de sa sœur Nora Borges pour évoquer précisément toutes les caractéristiques de la ville de Buenos Aires, les différents quartiers, le Recoleto, les patios, ce qu'on appelle le zaguán, c'est-à-dire l'arche qui précède le patio. Et on le verra, certains poèmes très lumineux évoque l'architecture de la ville de Buenos Aires, l'atmosphère de Buenos Aires, le tango, etc.
Alors, je pense que vous voulez lire un poème en français d'abord.
Oui,
je crois qu'il s'appelle El Sur.
Oui, je veux lire d'abord la traduction. Alors, je n'ai pas dit qu'on devait beaucoup... J'ai parlé d'arches tendues entre l'Amérique latine et l'Europe, et c'est tout le mérite d'Eduardo que de le faire. J'aurais pu mentionner un des grands traducteurs de Borges, qui est Roger Caillois, et Roger Caillois qui a traduit nombre de textes de Borges, qui a vécu lui aussi en Amérique latine et qui s'est fait le chantre de la littérature d'Amérique latine. Voici donc.
Ce n'était pas lui qui avait une correspondance avec...
Avec Victoria Ocampo.
Voilà.
Avec Victoria Ocampo, qui est la fondatrice de la revue Sourd, qui veut dire le Sud, justement.
Oui.
D'où le titre, d'ailleurs, du poème que je vais lire, qui s'appelle, en espagnol, El Sur, et traduit, bien évidemment, par le Sud. Du fond d'un de tes patios, avoir regardé les antiques étoiles, d'un banc de l'ombre, avoir regardé ces lumières éparses, que mon ignorance n'a pas appris à nommer, ni à ordonner en constellation, avoir senti le cercle d'eau dans la secrète citerne, l'odeur du jasmin et du chèvrefeuille, le silence de l'oiseau endormi, la voûte du vestibule, l'humidité. Ces choses, peut-être, sont le poème.
Et ça donne ça en espagnol, Dominique. El sur. Desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas, desde el banco de la sombra haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni ordenar en constelaciones. Haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madre selva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad. Esas cosas, acaso, son el poema.
Oui, alors, à cette occasion aussi, j'ai appris un mot nouveau, qui est le mot porteño, porteño en espagnol, qui veut dire de Buenos Aires.
Oui,
du port, puisque c'est par rapport au port de Buenos Aires.
Exact, exact.
Et alors, je voudrais lire maintenant un autre texte qui s'intitule « Un patio », précisément, puisque le patio joue un grand rôle dans l'évocation de la ville de Buenos Aires.
Et l'enfance.
L'enfance de Borges. Un patio. Avec le soir, se sont lassées les deux ou trois couleurs du patio. L'espace n'en est pas dominé cette nuit par le cercle clair de la lune. Patio, ciel enclavé. Le patio est la pente par quoi le ciel entre dans la maison. Sereine, l'éternité attend à la croisée d'étoiles. Douce est la vie en l'amitié obscure d'une voûte, d'une citerne et d'une treille.
Un patio. Con la tarde se cansaron los dos o tres colores del patio. Esa noche, la luna, el claro círculo, no domina el espacio. Patio, cielo encausado, el patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. Serena, la eternidad espera en la encrucijada de estrellas. Grato es vivir en la amistad oscura de un zaguán, de una parra y de un aljibe. Voilà donc ce patio en espagnol. Je ne sais pas si nous aurons le temps de lire encore un autre poème, à mon avis.
Peut-être Quartier reconquis, c'est pas très long, je sais pas.
Bon, allez-y.
Quartier reconquis. Personne ne vit la beauté des rues jusqu'à ce qu'épouvantable par la clameur, s'effondra le ciel verdâtre en eau et en ombre abattue. L'intempérie fut unanime et le monde fut haïssable au regard. Mais quand un arc bénit le soir avec les couleurs du pardon et qu'une odeur de terre mouillée anima les jardins, nous nous jetâmes aux rues pour y marcher comme sur un domaine recouvré et il y eut aux vitres des largesses de soleil et les feuilles luisantes nous dirent l'immortel frémissement de l'été.
Barrio reconquistado. Nadie vio la hermosura de las calles hasta que pavoroso en clamor se derrumbó el cielo verdoso en abatimiento de agua y de sombra. El temporal fue unánime y aborrecible a las miradas fue el mundo. Pero cuando un arco bendijo con los colores del perdón la tarde y un olor a tierra mojada alentó los jardines. Nos echamos a caminar por las calles como por una recuperada heredad y en los cristales hubo generosidad de sol y en las hojas lucientes dijo su trémula inmortalidad el estío.
Pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el perén. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido.
Notre émission littéraire. Touche à sa fin, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Et de côté littéraire, toujours. Merci beaucoup à Dominique qui nous a accompagnés ce matin pour découvrir un grand écrivain argentin, Jorge Luis Borges. Et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.
Au revoir a tous.
Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio.